Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Toujours hospitalisé, le pape François poursuit la thérapie appliquée par les médecins avec une légère amélioration du cadre clinique. Dans l'après-midi du mercredi 26 février, François a par ailleurs poursuivi ses activités professionnelles. Le pronostic reste néanmoins réservé selon les médecins, les fidèles qui continuent de prier de par le monde entier pour le rétablissement du Saint-Père. Vous aurez donc les détails sur la mise à jour de l'état de santé du pape François du jeudi 27 février dans l'actualité de l'Église qui nous conduira également en République démocratique du Congo, où le nonce apostolique en RDC, Mgr Mitja Leskovar, a été reçu mardi 25 février par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Toujours dans ce pays d'Afrique centrale, deux explosions ont retenti jeudi à l'issue d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu, auquel participait l'un de ses chefs, Corneille Nangaa. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique sur le continent, qui nous conduira aussi au Soudan et en Guinée. Vous suivrez également dans cette édition le témoignage d'un prêtre cambodgien qui explique comment il tente de poursuivre sa mission d'éducateur auprès des enfants dans un contexte de grande crise humanitaire au Soudan. Et nous conclurons avec les nouvelles de l'Église en Kikongo.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Le pape François a passé une nuit sereine et poursuit son repos. Telle est la mise à jour du jeudi 27 février de la salle de presse du Saint-Siège sur son état de santé. Mercredi soir, le dernier bulletin de santé expliquait que le scanner passé par François a montré une évolution normale de l'inflammation pulmonaire et de bonnes analyses sanguines. Dans l'après-midi du mercredi 26 février, François a par ailleurs poursuivi ses activités professionnelles. Le pronostic reste néanmoins réservé selon les médecins. Dans la matinée du jeudi, le Saint-Père a poursuivi le traitement prescrit et effectué des examens complémentaires. De bonne humeur, l'évêque de Rome est informé des nombreuses initiatives de prière qui sont organisées pour lui, a fait savoir la salle de presse du Saint-Siège. Toujours en lien avec l'hospitalisation du pape, il y a une forte mobilisation à travers le monde pour prier pour sa santé. Une messe a été célébrée mercredi à la mi-journée dans la chapelle Saint-Jean-Paul II de l'hôpital Gemelli, présidée par le vicaire du diocèse de Rome, le cardinal Baldo Reina, qui a souligné dans son homélie la force de la prière. Le personnel de la polyclinique, des fidèles ainsi que des étudiants étaient présents à cette célébration eucharistique. Au Tchad, par ailleurs, sur invitation du président de la conférence des évêques du pays, Mgr Martin Waingé Bani, les prières sont organisées tous les jours depuis le 26 février dans les paroisses, vicariats, mouvements et communautés de l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad pour la santé du Saint-Père. Suivons à ce propos le compte-rendu d'Edouard Takadji.
Les fidèles chrétiens de l'église famille de Dieu qui est au Tchad bien avant cela se donnent rendez-vous chaque soir depuis quelques jours dans les paroisses, vicariats, mouvements, services et communautés pour prier. Et cela en union avec l'église universelle pour implorer la miséricorde de Dieu pour son serviteur le pape François afin que le Seigneur le fortifie dans sa souffrance et lui accorde une prompte guérison. Dans une lettre adressée à l'église famille de Dieu qui est au Tchad, Mgr Martin Waingé Bani, évêque du diocèse de Doba, par ailleurs président de la conférence des évêques du Tchad, invite les communautés chrétiennes, sacerdotales et religieuses d'intensifier la prière pour la guérison du Saint-Père jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Vous pouvez le faire en choisissant les mots qui vous convient aux offices, à la messe, en récitant les chapelets ou d'autres prières lors de vos différentes rencontres, écrit le président de la conférence des évêques du Tchad. Répondant à cette lettre de l'évêque du diocèse de Doba, les mouvements Mario et bien d'autres mouvements des jeunes dans les différents diocèses du Tchad se rencontrent chaque soir pour le récit du chapelet, demandant à la Sainte Vierge Marie sa protection pour son fils, pape François. Edouard Takadji N'Djamena pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, la 6e édition des Journées nationales de la jeunesse a été solennellement lancée samedi 22 février 2025 lors d'une messe célébrée au sanctuaire marial national d'Abidjan par Mgr Joseph Aka Kaku, évêque de Yamoussoukro. Au cours de son homélie, le prélat a exhorté la jeunesse catholique ivoirienne à affirmer pleinement son identité chrétienne et à renouveler son engagement envers la vérité révélée, incarnée en Jésus-Christ. Plus de détails avec Marcel Ariston-Blé.
Dans son homélie, Mgr Joseph Akakaku, évêque de Yamoussoukro, a invité les jeunes catholiques à faire non seulement une confession personnelle, mais aussi une confession de foi en Jésus-Christ dans un monde où, selon lui, les valeurs et les croyances sont trop souvent mises à l'épreuve.
Il est important que la jeunesse affirme son identité chrétienne, son engagement envers la vérité révélée que Jésus-Christ, son appartenance totale à Jésus-Christ.
L'évêque de Yamoussoukro a insisté sur le fait que les jeunes catholiques ivoiriens sont des pierres vivantes appelées à bâtir l'Église et à participer activement à la construction de leur pays. Il a fermement réagi contre l'idée selon laquelle la jeunesse serait uniquement l'avenir du pays.
Vous entendez les hommes politiques dire « les jeunes c'est l'avenir du pays ». Moi je m'inscris en faux. Vous n'êtes pas l'avenir du pays. Aujourd'hui là, vous comptez. Ce n'est pas l'avenir, ce n'est pas le futur seulement. Dans le présent là, vous comptez. Aussi bien dans la société que dans l'Église.
Et dans le cadre de cette année jubilaire, Mgr Akakaku a également exhorté les jeunes à devenir des pèlerins de l'espérance. Il a souligné qu'il existe, selon lui, un sentiment de désillusion dans le pays et à travers le continent africain. Il a invité les jeunes à marcher aux côtés de Jésus-Christ, témoignant son amour et de sa miséricorde. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Et en République démocratique du Congo, enfin, le nonce apostolique Mgr Mitja Leskovar a été reçu mardi 25 février par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais a assuré le nonce de prier pour la santé du Saint-Père, toujours hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome. Préoccupé par la situation toujours alarmante dans la partie est du pays, le prélat a rappelé au président de la République, au cours de leurs échanges, les possibilités de promouvoir la paix. Ce n'est pas avec la force, les armes, la terreur envers la population qu'on peut obtenir la paix. Il faut se réunir autour d'une table avec sincérité, a déclaré le nonce apostolique. Mgr Mitja Leskovar a par ailleurs félicité le président congolais pour l'effort diplomatique déployé envers la communauté internationale sur la situation de la guerre dans l'est du pays.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Nous restons en République démocratique du Congo où deux explosions ont retenti jeudi à l'issue d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu dans l'est de la RDC auquel participait l'un de ses chefs, Corneille Nangaa. Aucun autre détail ou bilan n'était disponible dans l'immédiat. Une foule compacte était rassemblée pour ce meeting sur la place de l'indépendance de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu dans l'est de la RDC, ravagée par trois décennies de conflits. Une première explosion a provoqué la panique et la fuite des spectateurs avant qu'une deuxième explosion ne retentisse. Après Médecins sans frontières lundi, c'est au tour du Programme alimentaire mondial de suspendre son aide dans le camp des déplacés de Zamzam au Soudan. En cause, les attaques des forces de soutien rapide qui menacent la sécurité des travailleurs humanitaires. Les explications d'Augustine Passili.
C'est un nouveau coup dur pour le million de Soudanais qui ont trouvé refuge dans ce camp situé au nord d'Arfour. Ce mercredi, le Programme alimentaire mondial déclare quitter Zamzam en raison de l'escalade de la violence de ces deux dernières semaines. Il y a deux jours, l'ONG Médecins sans frontières a également annoncé son départ. Arrêter nos activités en pleine catastrophe qui s'aggrave à Zamzam est une décision déchirante, regrettait le chef de mission Yahya Khalilal. Ces départs sont causés par les attaques répétées menées par les forces de soutien rapide dans le camp et aux alentours. Or, la situation humanitaire est déplorable à Zamzam. C'est la première zone où la famine a été déclarée dès août 2024. De nouveaux déplacés arrivent chaque jour pour fuir les violences perpétrées à El Fasher, la dernière grande ville du Darfour qui résiste à l'armée, mais aussi dans les villages voisins. Hier, j'échangeais avec Souhad Youssif, qui m'expliquait que certains soirs, elle couche ses 6 enfants sans avoir rien mangé de la journée. « Nous ne sommes pas en sécurité à Zamzam. La semaine dernière, ma fille s'est cassée la jambe en courant pour échapper à un bombardement », témoigne cette mère qui compte parmi les plus de 12 millions d'individus jetés sur les routes à cause de la guerre qui dure depuis bientôt 2 ans. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Une cour spéciale à Conakry a condamné jeudi l'ex-premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite et corruption. Monsieur Fofana, qui est incarcéré depuis avril 2022, a été le premier ministre de l'ex-président Alpha Condé de mai 2018 à septembre 2021, date à laquelle le gouvernement a été renversé par un coup d'État. Il a été déclaré coupable par la Cour de répression des infractions économiques et financières, une juridiction anticorruption instituée par les militaires qui ont renversé le président Alpha Condé. Le Soudan connaît l'une des pires crises humanitaires de notre époque selon les Nations Unies. Les derniers chiffres évoquent plus de 12 millions de déplacés, soit environ un tiers de la population, en raison d'une guerre civile qui oppose l'armée et un groupe paramilitaire rebelle, les forces de soutien rapides. Depuis bientôt 2 ans, ce pays du nord de l'Afrique subit les affrontements sanglants entre les militaires des deux camps. À Kosti, au sud de la capitale Khartoum, l'armée contrôle le territoire. Un missionnaire de la région engagé dans l'éducation tente de poursuivre sa mission auprès des enfants. Malgré toutes les difficultés comme les coupures d'électricité, les cas de choléra qui se multiplient ou encore les fréquentes attaques de drones, il continue d'encourager les enfants à venir à l'école et à espérer un meilleur avenir pour la petite communauté chrétienne locale d'un 500 000 d'habitants. Il est prêtre, enseignant et directeur de 8 écoles à Kosti, malgré la diminution drastique du nombre d'élèves. Il a été interrogé par Jean-Benoît Harel.
Le nombre d'élèves cette année a considérablement diminué. Les années passées, c'était aux environs de 3 000. Mais maintenant, le nombre n'arrive même pas à 1 000. Il y a la question du déplacement intérieur et puis certains ont quitté le pays à cause de la guerre. En fait, nos élèves comme tels ne sont plus ici à Kosti, ils sont tous partis au Soudan du Sud. Ceux qui sont restés, ce sont des gens qui vivaient dans des familles un peu pauvres, qui souffraient un peu. Alors ce sont ceux-là qui n'ont pas de moyens de se déplacer ou bien qui n'ont pas de famille au Soudan du Sud. Les élèves qui sont actuellement dans nos écoles aujourd'hui sont de certaines zones de guerre, c'est-à-dire de Khartoum, de Médani et autres villes, El Obeid et autres villes du Soudan. Il y a beaucoup de déplacés, il y a les camps de réfugiés pour accueillir les déplacés de guerre.
Depuis septembre dernier, pour la rentrée scolaire, le gouvernement soudanais a demandé d'ouvrir les écoles après 2 ans de fermeture. Comment cela se passe-t-il?
Les écoles fonctionnent au rythme de la guerre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, mais nous continuons avec l'essentiel. Parfois, il y a des attaques de drones. C'est vraiment une situation un peu chaotique. Jusqu'à présent, on a fait plus ou moins 7 jours sans électricité. Pas d'électricité, ça affecte beaucoup de choses. Et puis la chaleur aussi. Lorsqu'il y a la chaleur, nos classes ne sont pas supportables parce que le plafonnier ne va pas fonctionner. Et jusque là, nous sommes au début de la période de la chaleur. Alors nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut installer des panneaux solaires, ainsi de suite. Un autre aspect, c'est celui de choléra. Et nous sommes en train de réfléchir quoi faire et puis pour garder au moins l'hygiène dans l'école, dans nos écoles de manière générale, parce que pour éviter au moins la contamination, d'abord, ce n'est pas une tradition ici, encourager les élèves à se laver les mains à tout moment, de ne rien manger sans laver les mains. Et puis, et voir encore ceux qui vendent de la nourriture aux élèves. Et la condition hygiénique, ça doit être là une priorité pour toutes ces dames qui vendent de la nourriture aux élèves. Et puis garder nos endroits publics en bonne forme, c'est-à-dire nettoyer ça à tout moment, comme par exemple les questions de toilettes, ainsi de suite.
Vous êtes engagé comme prêtre dans l'éducation. Quel avenir voyez-vous pour le Soudan, pour les chrétiens au Soudan?
L'éducation, c'est une des priorités de l'Église au Soudan. Comme prêtre, nous sommes là d'abord pour la sanctification du peuple de Dieu. Ça, c'est la priorité. Mais après, il y a comment l'enseignement pour ne pas laisser nos fidèles ignorants. La vie actuellement est devenue tellement difficile pour tant de nos chrétiens parce que la majorité de nos chrétiens sont des pauvres. La société ne permet pas vraiment aux chrétiens de travailler parce que si tu es chrétien, tu ne peux pas travailler dans certaines sociétés. Tu dois être toujours subalterne si tu es chrétien. Ceux qui ont des moyens, ils préfèrent de quitter, d'aller vivre ailleurs, en Ouganda, au Kenya, en Égypte, ailleurs. Il y a certains chrétiens même qui ont décidé de commencer à renoncer à leur foi juste pour la question de vie sociale. Alors, l'espérance, c'est d'abord cette confiance que nous avons que les choses vont changer. La guerre ne va pas continuer, les choses vont changer. Et puis, un jour, les chrétiens auront une place considérable au niveau du Soudan.
Refermons à présent cette édition avec les nouvelles de l'Église en Kikongo. Parole à Brigitte Kabou.
Bampangi ina kena kolanda beto mbote na beno. Beto ke pesa beno tsangwa dibundo na ndinga kikongo ya leta. Beto ke banana malongi ya Santo Papa ina ke tubila abu mwana ya Yezu. Mingi penza na kusuntula ya Yezu na tempilo ya Yerusaleme. Bisika vandaka ana mama ya profeta Samuele. Na Simeone ina memona na mwana Yezu uluvuluzo. Santo Papa ke lomba beto tangini na bao zole bambangi ya kivuvu. Na bantango ya Vatican, dibundu kele na ntango ya Santo Papa na l'opitalu, mavimpi na yandi kele ya Mbo TV. Kansi mazono, inzo ya ntango ya Saint-Serge, tubilaka bankangu ti Santo Papa lutisaka mpimpa ya Limbama. Mavimpi na yandi kele kaka na kiwonza kanti yao metile mavana. Ata yandi kele na mpasi, kilumu ya londime luta yandi yambaka Kardinal Pietro Parolin na Monseigneur Edgar Penapara sa muna kutula diboko na minkanda yina metala dikabu ya basanto. Na yina dibundu ke yamba basanto zuli. Jose Gregorio Hernandez ya Venezuela na Bartolo Longo ya Italy. Na bansa ditano ya Nzambi ke kuma ba venerable sa muna dikabu ya luzingu na bao na Nzambi. Na ngogo na yandi ya Karem, Santo Papa amevutoki la temi ya jubile ina kele pelerin ya kivuvu peke lomba dibundu yonso na kufilu lantima. Mpila tatu sa muna kulenda yao. Nzunga nkembo, udiata na kimvuka pe kivuvu. Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire ya Saint-Siège, sa munanguizani ya bainti, vandaka na lukutakano ya mbalama 58 ya Conseil ya Droit de l'Homme. Na ngogo na yandi, yani ke lomba na Conseil, yandi zadi santatu ya bankangu na yina metala mavimpi, kalasi, kimpwanza ya bainti. Sa muna mavimpi ya Santo Papa, kubanda kilumbo ya lundi, ba kardino, bansadi ya Curie Romaine, ba diocese ya Rome, ke sangana na kifulu Saint-Pierre na ntango ya Ivwa ya Nkokila, sa muna kusambila nsanga ya Maria. Yao kefula ti mavimpi ya Santo Papa ke kumamboti. Na bantango ya Afrika, kaka na yina metala lusambu, sa muna Papa, kimvuga ya ba episkopo ya Togo, lombaka na bankangu bilumbu tatu ya Misa. Kubanda kilumbu ya 15 ti ya Nsambwadi, ya uke manisila na adorasyon ya nitu ya santu ya Yezu na sanga ya Maria. Na Sud Sudan, Monseigneur Iboro Kusal, episkopo ya diocese ya Tambora, ya mbo mebo kila mpi bankangu banganga nzambi na ba Kristu ya diocese na yandi na misa na sanga ya Maria. Monseigneur Kelumba Diaka Lusadisu ya Santa Josephine Bakita. Na episkopo ya République Démocratique du Congo, kebela mpila bake yina, kezuba bampangi yina ke tubaka ndinga Swahili, na ntangu yayi inti kele na nkindu mingi penza, na ndambu yina bake tubaka ndinga yayi. Yao yina, bao mezo lave kuvambana na bayina nyoso kevanga inti ya Congo. Kaka na République Démocratique du Congo, Monseigneur Melchisedek Sikuli, episkopo ya Butembo Beni, kimvuka na bansadi ya Nzambi protestant, evangélique na anglican, tulaka diboko na nkanda ina kelomba ngemba na lufuvamu na province ya Nord Kivu. Nkangu kele na kubanga pamba ve, bimpumbulo ya M23 kena kukuma pi na ndambo yina bao kele pe na Uvira. Beno yina ameka tuwa kulanda beto baantango na beto memanisa beno bikana mbote. Uto Vatican wa beno mpangi Brigitte Kabo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Très chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français Afrique de Radio Vatican, Christian Losambe qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.
Vêtu de majesté, Seigneur. tu règnes.